France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Léa Capuano, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Jérémy Kaufmann. Culture Monde le vendredi, c'est une émission en deux parties, le retour de terrain d'abord. Nous recevons ce matin le documentariste Arthur Essiguier qui a co-signé pour Arte un documentaire sur les ravages de la drogue au Libéria 15 ans après la fin de la longue guerre civile. Et en deuxième partie pour la table ronde d'actualité, co-animée avec Marc Sémo, notre partenaire du journal Le Monde, nous parlerons du Sahara occidental où se déroule l'un des derniers conflits de décolonisation qui est aussi une affaire de rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui sur une résolution portée par les États-Unis, déterminée à régler en 60 jours, dit Steve Witkoff, un conflit qui dure depuis 50 ans. Nous en parlons avec nos invités, les chercheurs Khadija Mohsen-Finan et Adlène Mohamedi, à partir de 11h20.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Tu as une plaie au pied à force de fumer de la kush. Et maintenant, tu as une infection dans ton sang et dans ton corps. On peut s'occuper de ça. Ce n'est pas ça qui va te tuer. Tu sais ce qui va te tuer ? C'est si tu abandonnes. Alors ne rentre pas dans cette tombe pour t'endormir et mourir comme ce gars là-bas. Je vais parler à tes amis et on va te sortir de là. Tu m'entends ? Que Dieu te bénisse. Je t'aime.
C'est un homme au teint pâle et aux cheveux d'un roux qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons par ici, comme dirait le personnage d'un roman de Leonora Miano, en observant quelques pasteurs évangéliques états-uniens encourageant ses ouailles à taper des pieds et des mains sous les voûtes des temples quelque part en Afrique de l'Ouest. Mais cet homme que l'on vient d'entendre n'est pas de ceux qui veulent d'abord un billet avant de délivrer la parole de Dieu. C'est un ancien joueur de foot américain, ancien accro à la drogue et qui pense pouvoir sauver les libériens toxicomanes de l'enfer de l'addiction. Bonjour Arthur Essiguier.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisateur indépendant. Vous avez co-réalisé le documentaire Kush, la drogue des morts avec Maxime Priou et Pierre Chabert. Pour cela, vous étiez en mai dernier au Libéria. Qu'est-ce que c'est d'abord le Kush ? De quoi est-ce que c'est fait ?
Alors, le Kush, c'est une drogue assez jeune qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. C'est composé sur une base de cannabis avec du tramadol et d'autres opioïdes. Et le tout est lié avec des produits ménagers.
C'est une drogue qui se fume.
C'est une drogue qui se fume, qui est extrêmement peu chère. C'est à peu près 20 centimes d'euros la dose, qui est très répandue un peu partout à travers le Libéria, notamment à Monrovia, là où les jeunes vont se réunir. Et elle est consommée dans les cimetières.
Les cimetières de la capitale Monrovia. Mais elle se crée d'abord, elle se fabrique cette drogue au Sierra Leone. Où vous étiez au départ, c'est ça pour votre documentaire. Vous étiez d'abord en Sierra Leone et vous avez rencontré... Non, pas du tout.
Non, on n'était pas en Sierra Leone, mais on s'était intéressé à la couche en Sierra Leone. Puis après, pour développer le projet de ce reportage, on a décidé de le tourner au Libéria. Mmh. Parce que c'est notamment un des pays les plus frappés par cette épidémie. On peut parler d'épidémie, parce que ça se répand partout. Et personne ne sait comment l'endiguer. Le gouvernement ne fait pas grand-chose et surtout n'a pas de moyens pour contrer les trafiquants et donc aider les consommateurs.
Et comment est-ce que vous avez rencontré, comment vous êtes tombé sur cet étrange personnage, Michael Bowen, que l'on a entendu, ce Texan qui se retrouve au Libéria? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé de la ville d'Austin, au Texas, au cimetière de Monrovia?
Lui, son parcours à Michael Bowen, c'est qu'après une vingtaine d'années d'errance, à vivre dans les rues, à faire des allers-retours en prison, a réussi à sortir de la drogue grâce à la religion, à l'évangélisme. Et un jour, donc, il a créé sa propre paroisse et s'est fait contacter par un pasteur au Libéria qui lui aussi lui a dit qu'il y avait un énorme problème de drogue. Et vu que ce personnage se définit comme ancien toxicomane sorti grâce à la religion, il a été contacté par ses pasteurs libériens pour venir au Libéria.
Lui, il a 57 ans, il travaille dans le développement immobilier et tout ce qu'il gagne au Texas, ils n'ont pas l'investi, mais ils l'utilisent au Libéria.
Ils l'utilisent au Libéria. C'est son combat depuis à peu près une dizaine d'années. Donc il essaye d'y aller le plus souvent possible. Il y est en général 3 à 4 fois par an. Il y va pendant 2 à 3 semaines et il vient et fait une grande tournée des ghettos pour les chercher et voir qui serait apte à sortir des cimetières pour là notamment avec la religion. Et donc les personnes qui sont enclins viennent dans son centre.
Il les touche beaucoup d'ailleurs, c'est très charnel le contact qu'il établit avec les Libériens et les Libériennes toxicomanes qu'il rencontre dans les cimetières, dites-vous, car c'est là que vivent ceux et celles qu'on appelle les zogos, qui fument la queuche, qui sont contraints de vivre dans ces cimetières car ils ont été chassés des centres-villes. Et c'est là, dites-vous, qu'ils ont créé leur inframonde. Ils y vivent et ils y meurent la plupart du temps.
En fait, c'est le seul endroit où ils ont le droit d'être, parce que ce sont des terrains publics. Sinon, dès qu'ils sortent et qu'ils sont dans la capitale, ils sont souvent stigmatisés, maltraités, que ce soit par la police ou la population. Ils sont souvent pris comme bouc émissaire pour beaucoup de problèmes dans la capitale. Donc, ils se retrouvent tous dans les cimetières. Et ça a commencé après la guerre, avec les enfants soldats qui, quand la guerre a fini, eux, ils étaient addicts à la drogue et personne ne s'est occupé d'eux. Donc, ils se sont retrouvés dans les cimetières.
Et invariablement, pour ceux qui en meurent, et ils sont très nombreux à en mourir, ils sentent tout d'un coup toute leur force les lâcher. Ils se replient dans une tombe, ils s'y cachent et ils y meurent. C'est là donc que vivent des centaines de toxicomanes au Libéria, comme ce couple d'amoureux, Ash et Caroline.
Notre première nuit au cimetière de Kingray a été terrible. On a dormi sur une tombe. Mais que faire d'autre ? Je n'avais pas de maison. Je sais où est ma famille. Mon père est mort. Avec ma mère, on ne s'entend plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais désespérée. Je me suis mise toute seule dans cette situation. C'est pour ça que je me sens si mal. J'ai l'impression d'avoir été oubliée.
Caroline qui paye la drogue en se prostituant, lui, H, vole le jour et il veille sur elle comme il peut la nuit. On ne sait pas vraiment quel âge ils ont, Caroline et H. D'ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes, manifestement. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Arthur Essiguier, qu'ils ont connu cette guerre civile qui a pris fin en 2003 au Libéria ?
H, par exemple, lui est né 5 ans avant la fin de la guerre civile, donc il n'en a pas des souvenirs. Mais sa mère n'arrête pas de lui répéter que c'est sûrement à cause de ça qu'il a des fêlures en lui. Et qu'il s'est retrouvé très vite à tomber dans la drogue. Et donc c'est directement lié à la guerre civile, parce qu'avant la guerre, il n'y avait pas plus d'1% de la population qui avait déjà touché à la drogue. Après la guerre, c'était plus d'une dizaine de pourcents. Et malgré le fait de la fin de la guerre, vu qu'il n'y a pas eu de jugement, il y a beaucoup de... C'est comme s'il vivait encore avec les fantômes de la guerre. Donc une génération qui ne l'a pas connue vit au milieu de ces fantômes. Et donc est très vite touché par cette maladie. On peut parler de maladie pour cette addiction.
C'est vrai que H est sans doute très jeune, mais McLean, lui, un autre personnage de votre documentaire, à qui ce film est dédié d'ailleurs, car il est mort un mois plus tard, un mois après la fin de votre film. Lui, il avait 40 ans quand vous l'avez rencontré au printemps, et il avait été enrôlé très très jeune comme enfant soldat, kidnappé en 92. Il vous raconte qu'à l'époque... On les drogue, ces enfants soldats sont drogués, il le faut, pour qu'ils puissent faire les atrocités qu'ils ont commises au nom et sous le contrôle des adultes.
Ce que McLean nous expliquait, c'est que la première année, très vite, c'était des petites tâches. Et au bout d'un an, à observer un peu comment ça se passe dans ces clans, ces clans guerriers... on leur donne de l'héroïne, de la cocaïne, du crack, une kalachnikov, et on les envoie sur le front, tout en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas mourir. On leur montrait des films d'action américains, plusieurs films où on voit des acteurs mourir. On leur montre d'autres où on retrouve le même acteur, en leur expliquant que voilà, on peut pas mourir quand on est sous drogue, et surtout voilà, avec cette idée de
d'invincibilité.
Exactement,
parce que quand ils prennent cette drogue-là, qui est un mélange de cocaïne, de poudre à canon aussi, ils pensent être invincibles. En tout cas, ça les rend cruels et fous, ça c'est sûr. Cette guerre, elle fera 250 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Et quand en 2003, la guerre s'arrête, s'épuise, comme vous dites dans votre documentaire, la drogue, elle, reste. Et beaucoup de ces toxicomanes au Libéria sont d'anciens enfants soldats, les enfants soldats d'hier. Aujourd'hui, on estime qu'un quart des Libériens sont intoxiqués. Quel est l'effet d'ailleurs de la queuche sur les corps ?
Alors, la queuche, En fait, c'est vu que ces gens vivent dans des conditions assez terribles, dans des cimetières, au milieu des maladies. Il y a des corps humains qu'on peut retrouver à même le sol. À partir du moment où on a une petite plaie, une petite infection, tout de suite, tout ça va se développer et le corps va se mettre un peu, on peut dire, à pourrir, à moisir. Et donc sans aide, ces jeunes, et pas que ces jeunes, ces anciens enfants soldats vont se laisser mourir dans des tombes et attendre la mort.
Caroline et H sont de ceux que Michael Bowen réussit à convaincre de s'isoler du monde, mais surtout de s'isoler l'un de l'autre, eux qui restent l'un pour l'autre leur dernier lien avec la vie. Il les convainc d'aller dans son centre de désintoxication où se trouve aussi McLean. Mais vous avez visité un autre centre, tenu cette fois par un ancien chef de guerre. Qui est cet homme qui se surnomme Butt Naked et qui manifestement semble penser qu'il peut s'acheter une bonne conscience en aujourd'hui s'occupant de ces jeunes anciens enfants soldats que lui-même avait enrôlés.
Alors, cet ancien chef de guerre, général Butt Naked, appelé de son vrai nom Joshua Bligh, faisait partie de la tribu des crânes, donc de l'ancien président Samuel Doe. Donc il avait été appelé pendant la guerre pour venir défendre cet ancien président. Tout de suite, il a enrôlé des dizaines, centaines de jeunes avec lui qui prenaient aux familles, soit les familles lui donnaient de par une certaine religion, des croyances, où il les kidnappait, les enrôlait, les droguait et les envoyait au combat. Et après la guerre, il n'a toujours pas été jugé. Lui, maintenant, demande le jugement, parce qu'il a des enfants. Il dit « Je n'aimerais pas que mes enfants vivent le même schéma que j'ai pu faire subir à d'autres enfants ». Il nous a dit une phrase, je ne suis pas sûr qu'elle ait fini dans le reportage, mais qui était assez marquante. Il était pour les criminels de guerre. Certains ont décidé de fuir aux États-Unis, d'autres en Suisse, en France. Et moi, j'ai décidé de choisir la religion. Et donc maintenant, je pense qu'il se sert de ça pour pouvoir ne pas être jugé, se réhabiliter auprès de la population. Voilà.
I used to go on the international waters.
J'allais en mer internationale pour rencontrer des trafiquants mexicains. Je leur donnais de l'or, des diamants, et en échange, ils me donnaient de la cam et des munitions. Je donnais ensuite cette drogue aux soldats. Je sais que j'ai contribué à sa prolifération dans le pays, à ce que des enfants en consomment, directement et indirectement. C'est pourquoi aujourd'hui, je me concentre à aider les Ogos avec ce centre.
Butt Naked, les Ogons rappellent que c'est le nom qui est donné à ces toxicomanes au Liberia. Lui qui vous dit tranquillement « Je suis responsable de la mort de 20 000 personnes pendant la guerre civile ». Lui, aujourd'hui, se dit sans doute que tant qu'à rester au Liberia, autant faire mine de s'être repenti. Ça, c'est peut-être un peu présagé de ce qu'il pense vraiment, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un décalage terrible entre ce qu'il a fait pendant la guerre civile et ce qu'il pense pouvoir racheter aujourd'hui dans son centre de désintoxication, où les toxicomanes ont 8 mois pour se désintoxiquer, apprendre un métier. Ça commence par 3 semaines enfermés de force, entre guillemets, même si personne ne les force à aller dans ce centre. Mais néanmoins, il y a des méthodes quand même un petit peu brutales pour aider ces jeunes à quitter la drogue, ou pour que la drogue quitte leur corps, en tout cas, comme il leur dit. Est-ce qu'il existe aussi des centres pour femmes au Liberia? Est-ce que Caroline, qu'on entendait tout à l'heure, a pu être soignée?
Il y a très peu de centres pour femmes au Liberia. Caroline, on a eu des nouvelles assez récemment. On sait qu'elle a fui du centre et qu'elle est retournée dans un des cimetières de Monrovia. C'est Michael Bowen qui nous a tenu au courant parce qu'il continue de suivre l'avancée de son traitement. Et donc, lors de son prochain passage au Liberia, il va aller la retrouver pour essayer de lui trouver un autre centre, meilleur que l'ancien. Mais en tout cas, notre connaissance, et c'est aussi d'après les dires de Michael Bowen, il n'y a pas encore de super et très bonnes infrastructures pour les femmes.
Est-ce qu'elle a retrouvé son amoureux, H, ou lui est resté dans son centre de désintoxication?
H est toujours dans le centre de désintoxication. En gros, il y a quelques semaines, comme vous disiez avant, le McLean, l'ancien enfant soldat d'une quarantaine d'années, est décédé suite à une prise de drogue dans le pays, ce qui a encore plus resserré les liens auprès de l'association. Parce que c'était un peu comme un grand frère pour tous les jeunes qui rentraient dans le centre de désintoxication. Donc ça a fait peur et ça a remis encore plus la tête sur les épaules. Et donc, on sait que H avance très bien dans sa désintoxication.
Comment le gouvernement libérien du Premier ministre Joseph Boakai, élu l'année dernière, s'est-il saisi ou pas de ce problème massif de la drogue et de l'addiction ? Vous disiez tout à l'heure que c'est plutôt, on observe tous les jours des saisies, alors beaucoup de saisies, mais assez dérisoires en termes de quantité, un modèle très répressif. Est-ce qu'il s'agit de démanteler des réseaux mafieux ? Est-ce qu'on peut parler de réseaux mafieux pour la Kush ?
On peut parler de réseau mafieux pour la Kush, mais le gouvernement n'a pas beaucoup de moyens pour les contrer, parce que c'est une drogue pas chère qui passe par les frontières de la Sierra Leone, où les frontières ne sont pas très bien surveillées. Donc le gouvernement n'a pas de solution, mis à part le tour répressif. Et sauf que le tour répressif, ça finit souvent sur les ogos, donc les consommateurs, les dealers. Quelques dealers, il y a quelques descentes assez spectaculaires pour montrer qu'il y a une action. Et malheureusement, ils sont très vite remplacés par d'autres. Donc, ce sont surtout les ogos et les addicts qui subissent cette politique.
Et les groupes criminels affiliés à des réseaux nigérians, par exemple, qui jusqu'à présent vendaient de l'héroïne, de la cocaïne, du crack, est-ce que ça crée des concurrences ? Parce que la Kush, c'est vraiment pas cher du tout. Est-ce que ce marché de la Kush a grignoté des parts de marché sur celui de ces drogues dures et comment réagissent les réseaux criminels ?
Les réseaux criminels nigérians, maintenant, ont trouvé une nouvelle technique assez terrible. C'est qu'ils font circuler une Kush qui est intoxifiée. Et donc McLean, l'ancien enfant soldat, qui a juste refumé une dose, est mort instantanément. Donc en gros, maintenant, on peut voir un peu partout dans la ville en ce moment des jeunes morts dans chaque coin de rue, juste le temps de fumer une taf, et mort instantanément. Donc c'est une guerre qui en fait retombe encore une fois de plus sur les consommateurs. C'est en fait pour leur faire peur et les repousser vers des drogues plus communes, on va dire comme le crack et l'héroïne, qui circulaient bien plus avant qu'aujourd'hui.
Quand H d'ailleurs arrive dans son centre de désintoxication et qu'il s'installe sur son lit superposé, il sait qu'il va rester là plusieurs mois et il vous dit face caméra comme ça avec de grosses larmes qui coulent sur ses joues, il sait qu'il s'est séparé de sa chérie, son amoureuse, la femme qu'il aime pour plusieurs mois, et il vous dit tellement de mes proches vont mourir pendant la saison des pluies, parce qu'il sait que dans le cimetière on ne peut pas vivre très longtemps, surtout quand on est intoxiqué avec cette drogue. Alors au mois de juillet, après votre tournage, le Premier ministre a présenté ses excuses aux Libériens au nom de l'État pour la guerre civile, en fait les deux guerres civiles entre 89 et 2003. Au-delà des mots, est-ce qu'un début de justice se saisit des crimes commis pendant les guerres ? Le travail, par exemple, de cet ancien journaliste que vous avez suivi, du Global Justice and Research Project, qui aujourd'hui s'est donné pour mission de chasser des criminels de guerre. Lui, il s'appelle Hassan Bilitti. Où est-ce qu'il en est, son travail à lui ?
Hassan Bilitti, il travaille essentiellement sur les criminels qui ont fui à l'étranger, parce que ceux qui restent dans le pays ne peuvent pas être jugés, malgré le fait qu'une commission va être mise en place, mais c'est une commission qui est promise par nombre de présidents et politiques avant M. Joshua Blahi. Donc...
Ouais, donc il s'occupe plutôt de personnes qui sont à l'étranger. Par exemple, ce K1 aux États-Unis, quand vous filmez, on vient d'apprendre que K1, un ancien seigneur de guerre, a été arrêté. Il était arrêté depuis déjà quelques temps aux États-Unis, mais qu'il avait plaidé coupable et qu'il allait être jugé. Ça, c'est de dossiers qu'ils suivent dans le détail, de toute façon.
Voilà, donc on l'appelle comme ça, le chasseur de criminels. C'est comme ça qu'il est dépeint par toute sa communauté, chasseur de criminels. Et lui, ce qu'il nous explique, c'est que par exemple, dans le pays, on ne peut pas juger un criminel comme par exemple comme Joshua Blahi, comme le général Butt Naked. Parce que si on le juge, lui, pour certaines personnes, pour sa tribu, c'est un héros de guerre. Pour le reste de la population, c'est un criminel de guerre. Et donc, vu que personne n'a encore été jugé, tout le monde a encore peur de cette guerre civile qui pourrait ressurgir, qui n'est pas si lointaine, qui était il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus. Donc, c'est une population qui a envie de justice, mais aussi qui a envie de paix. Donc, pour le moment, malgré le fait que Joshua Blahi, lui, demande à être jugé. Il demande à être jugé, mais ça, on ne peut que le deviner, tout en sachant qu'il ne pourra pas être jugé à cause de ses tractations dans le pays.
Quant à K1, qui a été jugé aux États-Unis, il a été condamné récemment en septembre à 5 ans de prison, mais pour fraude à l'immigration. Il n'a pas été inculpé pour crime de guerre, mais le tribunal a entendu des témoignages de 9 de ses victimes qui ont décrit comment il parcourait les villages pour arrêter les hommes, les femmes et les enfants de ceux qui refusaient de rejoindre son mouvement, le LERD, qui étaient tués pour ceux qui refusaient. Lui, il a nié tout ça, il a dit qu'il était un simple traducteur, mais en tout cas, les victimes victimes ont au moins reconnu le soulagement à avoir été entendu par la justice. Merci beaucoup Arthur Essiguier d'avoir été avec nous. Kush, la drogue des morts, le documentaire que vous avez co-réalisé avec Maxime Priou et Pierre Chabert, est en ligne sur le site d'Arte.fr et nous mettons le lien sur le site de Culture Monde.